Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, le temps des belles choses.
Chapitre 3, nous allons lire une dizaine de versets et qui va nous situer dans notre réflexion, dans notre méditation. Alors, Ecclésiaste 3, verset 1er, je lis ceci, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre ou recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose belle en son temps même. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors on était un petit peu perdu dans toutes ces antithèses, là, ces comparaisons et ces contrastes, ces contraires. Et je crois que ça a été écrit pour bien montrer que la vie des hommes, le monde, eh bien, est fait avec cet espace que l'on appelle le temps. Voilà. On le sait, quand on a vécu un petit peu, il y a une variété de choses qui s'inscrivent dans le temps, et il y a un temps pour faire, et un temps pour préparer ce que nous allons faire, un temps pour vivre ce qui a été fait. Et comme ce même auteur du livre de l'Ecclésiaste, il dit ceci, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça depuis toujours. Et c'est ainsi qu'est la vie. Alors j'aimerais porter une réflexion ce soir sur eh bien, cette question du temps, c'est tellement important. Vous savez, on vit au rythme des événements. Hein, et les choses vont quand même tellement rapidement, avec notre monde moderne, l'informatique, l'information. Alors on passe d'une chose à une autre et on oublie très vite parce que nous sommes emportés par le temps. Et c'est vrai qu'en y considérant bien les choses, c'est vrai que c'est un tourbillon. La Bible en parle, elle nous parle d'une vapeur. Elle nous parle comme d'une fleur qui éclot le matin et qui le soir, eh bien... Mais j'aimerais justement, eh bien, peut-être aller en précision dans tout cela, parce qu'il y a un temps pour penser à Dieu. Et vous savez que nous l'avons lu il y a un instant, il nous est dit que, je le relis, puisque toutes choses sont faites bonnes et belles, si véritablement nous restons dans le cadre de ce que Dieu a préparé pour nous, et si nous le désirons naturellement, hein, il n'y a pas d'obligation, l'homme reste libre. Et il nous est dit qu'il a fait toutes choses belles en son temps, donc il y a un temps précis, particulier, on en parlera. Et il nous est même précisé que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voilà. Alors c'est contrastant parce que vous avez le temps et l'éternité. Et nous nous sommes renfermés entre un début et une fin. Nous sommes finalement des êtres finis. Et nous nous dirigeons, si nous comprenons bien le dessein de Dieu, vers l'infini, c'est-à-dire l'éternité. Et même si on y réfléchit, il nous est dit bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du début jusqu'à la fin, de son commencement jusqu'à la fin. Et c'est vrai que probablement à travers tous les siècles, toutes les sociétés qui se sont succédées, les temps, eh bien l'homme a véritablement du mal à comprendre les choses, parce qu'on connaît l'histoire, et l'histoire elle est écrite, hein, on ne la refera pas. Maintenant il y a le temps présent. Et puis il y a le temps à venir qui est un souci d'angoisse, hein, pour nombre de personnes l'incertitude de l'avenir. Mais il nous est dit que, et moi je voudrais me réconforter et peut-être vous communiquer une espérance, c'est que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que des choses belles dans le monde, dans notre vie, dans la vie des hommes. Alors, je voudrais recadrer un petit peu les choses par rapport à ce que nous sommes, nous les hommes, et parler un petit peu des attributs divins, ou tout simplement du caractère même de Dieu. C'est que Dieu est l'éternel présent. Voilà. Quand il s'est révélé à Moïse, Moïse lui a posé la question, mais quel nom portes-tu? Que dois-je dire de ce que tu es? Et Dieu lui dira, ben, je suis celui qui suis. Alors je ne sais pas si ça vous contente, mais ça nous montre en tous les cas, eh bien, cet éternel présent. Et le temps de Dieu est permanent. Nous avons quelquefois l'angoisse de voir des choses nous échapper, en disant, bien voilà, c'est fini, mais est-ce que c'est véritablement fini? Alors l'association de notre vie, de notre âme, de notre existence à Dieu, eh bien, elle est marquée justement dans cette proposition de bien réfléchir que Dieu est l'éternel présent, qu'il est celui qui demeure, et si nous voulons marcher avec lui, eh bien, c'est vrai qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a pas de perte. Parce que qu'est-ce que l'on appelle une perte? Qu'est-ce que l'on considère sous ce sens? Parce que nous savons que Dieu agit toujours selon sa volonté qui est parfaite. D'ailleurs, Paul le dira, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce sont des choses à considérer. Alors celui qui a une ouverture de cœur par rapport à la Bible, par rapport à l'Évangile, par rapport à la vérité que Dieu nous a révélée, donc sa parole, alors nous pouvons considérer que, en tous les cas, sa volonté parfaite est offerte à notre foi, et si nous voulons véritablement fonctionner de cette manière, eh bien nous allons voir de grandes choses. Et nous allons vivre de grandes choses. Parce que si nous nous arrêtons à nos analyses, à nos conceptions qui sont très... notre manière de penser qui est d'une manière très... c'est réducteur. Alors, nous n'allons pas aller très loin, naturellement, et nous pouvons très facilement, et le monde peut très facilement tomber dans le désespoir en fonction des événements, des circonstances. Nous, les hommes, nous évaluons le temps en fonction de nos appréciations humaines, de notre histoire, de notre présent, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, l'un et l'autre d'ailleurs, passé et présent, en fonction des nécessités. Et quelquefois, il y a des choses qui nous bousculent, des choses qui nous traumatisent, des choses qui sont dramatiques. Alors, les nécessités, ou alors nos besoins. Et les besoins, nous en avons tous les jours. C'est pour ça que dans le Notre Père, vous remarquerez qu'il nous est dit d'une manière admirable, et c'est Jésus qui nous l'enseigne, eh bien justement de compter sur lui, de lui faire confiance, parce que dans ce même contexte du sermon sur la montagne, il dira, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Et ça, c'est un appel, eh bien tout simplement à nous confier, ou tout simplement nous livrer entre ses mains en disant, mais puisque toi tu sais toutes choses, tu es au ciel, nous sommes sur la terre, tu connais à la fois eh bien, nos nécessités et nos besoins, eh bien, nous te faisons confiance et nous comptons sur ta parole. C'est ce qu'on appelle tout simplement eh bien, la foi. D'où notre impatience quand les choses ne se font pas comme nous le pensons. Et c'est vraiment le problème majeur de l'homme, problème également de notre société, de notre monde moderne, où nous pensons que tout doit aller vite. D'ailleurs, on a fait en sorte, hein, avec la manière de concevoir le service même, le service ou tout ce que nous pouvons attendre, hein, moyennant naturellement des espèces selon tes tributions, que nous devons être servis en premier, que nous devons être servis tout de suite. Et nous n'avons pas forcément appris des vertus ou tout simplement des qualités cardinales telles que la patience. Et vous savez que la patience, ça nous joue de mauvais tours. Parce que pour rater des affaires, soyons impatients. Et là, nous risquons d'avoir véritablement eh bien, des soucis. Or, le sujet de l'action de Dieu, en son temps, puisque nous l'avons vu, puisque il y ajoute que quand il fait les choses dans son temps, dans le temps de Dieu, eh bien, ça sera toujours bon, ça sera toujours bien, et ça sera beau. Nous en avons fait l'expérience du savoir attendre, où nous avons tenu notre âme en patience, et parce que nous avons véritablement compris cette leçon, on a été béni, on a été honoré, on a été exaucé au-delà de toute mesure. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, cette action de Dieu en son temps, eh bien, nous a appris que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre, et le nôtre n'est pas celui de Dieu, parce que lui, il sait quand il va exaucer, il sait quand il va donner, quand il va honorer une prière, la prière de la foi, parce qu'il sait au moment où l'exaucement sera mûr. C'est-à-dire qu'il y a comme le fruit, vous comprenez. Si vous mangez un fruit vert, eh bien, c'est amer. Si vous le mangez, eh bien, quand il a passé la date, hein, finalement, de consommation, il n'a plus de saveur, il est flasque, il n'y a plus de goût. Mais quand il est pris à temps, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, même les fruits aujourd'hui, on ne sait plus tellement attendre les saisons, vous comprenez. Hein, ça n'a plus tellement de sens et de goût. Alors donc, il y a une question de maturité. Il y a Dieu qui connaît quand ce que vous avez demandé, eh bien, la chose est prête pour vous la donner. Quelquefois, on peut attendre, c'est vrai. Je dis, mais Seigneur, mon besoin, ma nécessité, mais je ne comprends pas que tu ne m'aies pas exaucé dès maintenant. Je ne comprends pas que tu n'aies pas donné. Mais Dieu le sait. Et autant que nous nous maintiendrons dans la foi, que nous veillerons finalement à ce qu'il nous a promis, que nous avons dans notre cœur, même si quelquefois nous en pleurons, parce que c'est difficile d'attendre. Lorsque nous voyons le temps passer, le temps qui passe, et que nous disons, mais voilà, moi je vieillis, ou je perds des occasions, ou ceci et cela, mais ça c'est une façon de penser très humaine. Hein. Alors, Dieu sait la maturité des choses, et il nous le donnera, et bien quand il la déclarera mature, hein, il la déclarera belle, parce qu'elle sera mûre, tout simplement pour nous la donner. Et c'est ainsi que nous trouvons cette phrase, ce verset dans la Bible, où il nous est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors ça, c'est déjà une interpellation dans notre introduction ce soir, pour dire, eh bien Seigneur, apprends-moi à attendre. Donne-moi la patience, parce que je sais que ce que tu as mis dans mon cœur, ça se réalisera un jour ou l'autre. Mais donne-moi le pouvoir, eh bien, me tenir tranquille, tout simplement. Et quand Dieu donne, il veut que nous soyons aussi en condition pour recevoir sa grâce. L'exaucement, le retour de notre prière. Parce que moi, je crois que Dieu est toujours prêt. Alors, il y a toutes sortes de facteurs. Hein. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails métaphysiques, mais nous prions, Dieu entend notre prière, c'est des textes bibliques, hein, tout ça. Et quelquefois, il y a des interférences dans le retour. Moi, je dis qu'il y a un ennemi aussi qui veut nous empêcher, finalement, de recevoir. Alors, il nous trouble. Alors, il nous met dans des conditions de combat, d'inquiétude, d'angoisse, de peut-être quelquefois où nous avons des pensées qui nous viennent de doute, qui nous viennent dans notre cœur en disant « Mais Dieu n'a jamais entendu, il ne veut pas m'exaucer. » Et il y a des interférences dans un monde qui ne nous appartient pas, un monde spirituel. Ça, c'est aussi... Eh bien, un des cas de ce délai, on l'a vu dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, hein, si vous faites référence à ce qui nous est enseigné, eh bien, vous verrez que quelquefois on se dit, mais Seigneur, tu n'as pas exaucé, et Dieu pourrait nous dire, mais je t'exauce, ça vient vers toi, mais il y a actuellement un combat, une lutte, et puis il y a quelquefois aussi des dispositions, parce que lorsque nous attendons, nous pouvons tomber dans une forme de découragement qui neutralise notre foi. Où nous ne pouvons rien dire, nous ne pouvons rien faire, et nous disons, mais c'est fini, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que ça soit terminé. Et nous ne devons pas marcher avec nos émotions, nos sentiments, ou nos pressentiments, mais nous devons marcher par la foi, tout simplement. Je dis et je répète ce que vous avez déjà entendu des centaines et des centaines de fois, mais il faut encore le dire. Cependant, le problème, que c'est parfois nous qui ne sommes pas prêts. Et c'est pour ça qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour que Dieu entende, il y a un temps pour que Dieu réponde, malgré tous les aléas de ce monde invisible qui nous environne, et il y a un temps aussi pour que nous soyons préparés à recevoir. Et vous avez remarqué quelquefois les choses les plus cruciales, les plus brûlantes, les plus blessantes que nous attendons, qui nous font du mal, c'est souvent au dernier moment, je dirais presque au moment où on n'y croit plus, on y croit encore. Et Dieu nous fait grâce, il est encore un Dieu de grâce, parce que quelquefois nous sommes prêts à chanceler, et c'est à ce dernier moment que Dieu vient et nous dit, mais voilà, mais pourquoi tu t'es inquiété? Je te le donne. C'est encore une grâce de Dieu. Donc, être préparé, car attendre, je le répète, c'est la chose qui sera, selon Dieu, belle. C'est dans cette foi et dans cette attente, lorsque eh bien, l'objet de notre prière sera parvenu à maturité, que nous pourrons le recevoir. Vous savez, dans le livre du prophète Jérémie, Lamentation de Jérémie, il est dit cette ce beau texte, je le cite comme ça tout simplement. Il nous est dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Si vous le prenez à l'envers, il est bon d'attendre dans l'agitation, non? Dans la fébrilité, dans la fièvre, non? Ouais. Il ne sera pas bon d'attendre dans ces conditions. Parce qu'on n'est plus dans la foi, on est dans l'inquiétude, on est dans le tracas, et ça n'obtiendra jamais une écoute et un exaucement de Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bien dit, secours, c'est que Dieu intervient. Un secours, c'est quelque chose qui a un sens. Et peut-être que nous attendons le secours de Dieu. Alors, j'appellerai maintenant la suite la guerre du temps, c'est-à-dire survivre. Eh oui, parce qu'un chrétien prie, un chrétien a foi en Dieu, il a foi dans sa parole, il a foi dans ses promesses, mais comment survivre à tout ça? Et si nous regardons un peu comment le monde dans lequel nous sommes imprégnés, nous sommes plongés, eh bien, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut véritablement eh bien, s'inspirer. Parce que tout est fait pour démonter, casser et neutraliser notre foi. Qu'est-ce qui se passe, humainement parlant et autour de nous? La vie passe et plus on vieillit, on a forcément moins de temps à vivre. C'est logique, je vous ai dit qu'on était enfermé entre un commencement et une fin. C'est pour ça qu'il est dit à un moment donné, mais bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ça reste très mystérieux tout ça, même si quelque part nous appréhendons certaines vérités, nous arrivons à accéder à la compréhension, cette compréhension peut-être qui peut eh bien, nous aider, nous rassurer, nous tranquilliser. Mais vous avez remarqué, nous sommes des hommes sur la terre. Et puis, il y a un autre monde, naturellement. Alors, c'est vrai que le temps passe, et on se dit, mais ça se rapproche. Alors, c'est vrai que quand on a 20 ans, on dit, c'est très long. Quand on a 50 ans ou 60 ans, on se dit, c'est déjà beaucoup plus court. Et puis, je suppose que les personnes qui sont arrivées au soir de leur vie en disant, eh bien, c'est peut-être un an, deux ans, quelques mois, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, remarque, ça arrive à des jeunes aussi, où il reste si peu de temps, mais heureusement qu'on ne le sait pas. Alors, ce n'est pas la peine de s'inquiéter à l'avance. Parce que notre horizon se rétrécit, plus on vieillit. Alors la sagesse nous conseille, eh bien, peut-être dans ce cheminement de la vie, dans ce vieillissement, dans ce rétrécissement de l'existence, d'en faire peut-être un peu moins, mais de le faire mieux. C'est la sagesse qui nous dit ça. Et si vous lisez le livre des Proverbes, vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, précisément le livre que nous avons ouvert, eh bien, tout nous est enseigné dans l'art de vivre. L'art de savoir vivre, l'art de savoir patienter, de savoir attendre, de savoir espérer, de savoir, compter sur la grâce de Dieu. J'aimerais présenter quelques considérations d'ordre naturel maintenant. Le temps, la vie ou la survie. Il y a des hommes qui ont une vie, qui survivent. J'espère que ce n'est pas le cas des chrétiens, nous devons avoir une raison plus forte et plus grande. Ce n'est pas de la survie, nous vivons. Et il faut bien s'imprégner que Dieu nous a appelés à la vie et non pas à la survie. Et nous avons des expressions pour parler de tout cela. On dira perdre son temps. Voilà, il perd son temps. Je ne sais pas si ça se perd, si ça se gagne. Je vais gagner du temps. Ça n'a eu qu'une valeur tout à fait particulière, naturellement. Et c'est quelquefois un facteur de stress, de savoir que nous perdons du temps. Alors il faut le rattraper. Et quelquefois, ce qui nous rattrape, c'est l'accident, c'est l'erreur. C'est toutes sortes de choses qui peuvent survenir dans notre vie parce que nous avons ce sentiment que ça nous échappe. Et est-ce que réellement, si nous nous posons la question, est-ce que le temps est capable de nous transformer? Moi, je répondrai oui. Tout dépend comment nous jugeons la chose et comment nous appréhendons finalement cet élément, ce facteur temps. Moi, je crois que Dieu se sert du temps pour nous transformer, c'est certain. Et il y ajoute sa patience, il y ajoute sa grâce, parce qu'il y a longtemps qu'on ne sait plus là. C'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu, naturellement. Et comment fait-on dans les choix du moment? Ces choix qui nous sont présentés, il y a des gens qui sont indécis, qui sont devant des situations où ils devraient décider parce que c'est le moment. Alors on leur dit maintenant, vous êtes prêts? Ils ont peut-être tellement pleuré pour dire, eh bien j'attends. Et au moment où c'est prêt, ils disent, non, je ne peux plus, je ne sais plus. On a des histoires assez assez fameuse dans la Bible, moi je pense aux Israélites, qui avaient quand même attendu, c'est quand même pas une paille, mais qui avaient attendu quand même plus de 400 ans, et puis au moment où Moïse voulait les faire rentrer dans le pays de Canaan, ils ont dit non, maintenant on fait demi-tour, hein, parce qu'ils étaient complètement paniqués. Et peut-être qu'il y a des tempéraments même chez les chrétiens, qui arrivent à un moment donné où ils sont près de la frontière pour passer dans la bénédiction de Dieu, dans l'exaucement, et à ce moment-là, eh bien, ils disent « Ah non, je ne peux plus, je ne sais plus. » C'est assez troublant. Il y en a d'autres dans le monde moderne dans lequel nous sommes qui parleront de courir après le temps. Alors, il y en a qui le perdent, il y en a qui courent. Courir après le temps. Vous savez que depuis les temps immémoriaux, depuis qu'on a fait des calculs et qu'on a finalement fondé des règles et des bases, des principes, je voudrais quand même vous dire qu'une journée, ça fait 24 heures. Hein. Et je ne vais pas faire le détail après pour les horaires. Parce qu'on peut aller très très loin comme ça. Courir après le temps. Pour nous donner, et ceci nous amène à une sagesse de réflexion, naturellement, parce que quand on voit le monde d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques siècles en arrière, les hommes vivaient, comme on dit, au pas du cheval. Voilà. C'était une lenteur, peut-être pour eux ça allait vite. Mais aujourd'hui, ils reviendraient les pauvres, ça leur passerait sous les yeux, au-dessus de la tête et partout, ils seraient complètement catastrophés naturellement. Mais nous vivons dans un monde de productivité, et voire peut-être même de boulimie de temps. Voilà, je veux véritablement, je cours après le temps. Et à ce moment-là, eh bien, la vie devient insupportable. Parce qu'à force de courir, un moment ou un autre, il faudra bien s'arrêter. Hein, et à juger de la manière dont on va s'arrêter. Ça, c'est aussi une question. Le temps est rythmé aussi. Voilà. Le temps est rythmé par les années, par les saisons, par toutes sortes de choses. Et ce que nous sommes appelés, c'est vivre au présent. Il y a des gens qui se sont réfugiés dans le passé, ils sont coincés dans le passé, c'est comme ça. Tout s'est arrêté à un moment donné, à un événement ou à un autre, heureux ou malheureux, il n'y a plus rien. Et puis, il y en a d'autres qui vont être tout à fait préoccupés par l'avenir, il y a que ça qui les intéresse au détriment de leur présent. Alors, je voudrais vous dire que pour bien vivre, il faut savoir vivre l'instant qui se passe, l'instant qui passe. Hein, parce qu'il nous est dit qu'il y a un temps pour toute chose. Voilà, demain, ça sera autrement. Eh bien, dans 8 jours, ça sera probablement autre chose, comme ça l'a été pour notre passé. Mais nous l'avons découvert et vécu. Et nous l'avons apprécié, si nous avons su l'apprécier. On peut redécouvrir son temps aussi, ou le temps. Mais la redécouverte, elle se fait au prix d'un sacrifice, c'est-à-dire au prix du sacrifice de nos chères mauvaises habitudes. Et vous savez que quelquefois nous avons des mauvaises habitudes par rapport au temps, parce que nous ne savons pas gérer, nous ne savons pas nous organiser, et quelque part nous sommes tellement précipités, aussitôt dit, aussitôt fait, mais de la manière, c'est pour ça que je vous parlais, que la valeur, la qualité, eh bien, était au-dessus de la quantité. Et où on vit dans un monde où on est poussé, même, je pense qu'en entreprise, dans le monde du travail, etc., les hommes sont véritablement compressés par rapport à ça. Il faut produire, il faut faire ceci et cela. Et puis il y a aussi autour de nous des voleurs de temps, qui viennent nous grignoter, qui viennent nous prendre l'essentiel. Ouais, les voleurs, les ravisseurs de temps. Et on s'aperçoit que quelque part on le regrette, parce qu'on se dit, si je n'avais pas perdu mon temps à ceci, cela, eh bien je n'en serais pas là, je serais peut-être plus loin. Gérer les retards aussi, quelquefois c'est notre responsabilité. Et puis, tout ça crée des urgences et des tensions. On comprend que le monde est malade, hein. On comprend que le monde n'est pas bien. Comment maîtriser son temps? Comment maîtriser le temps qui nous est imparti? Quelquefois, je l'ai dit il y a un instant, il faut savoir faire le ménage. Il y a des choses qui sont des voleurs de temps. Il y a des éléments dans notre vie qui, quelque part, eh bien, viennent nous détourner de l'essentiel. Il y a des choses secondaires. Puis il y a des choses qui sont primordiales, qui doivent avoir la priorité, d'abord dans notre tête, dans notre cœur, dans nos sentiments, et de savoir, quelque part, donner un peu d'organisation à notre vie dans le temps. Ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir réussir. Vous savez que la vraie liberté, elle commence par là. Il y a des gens qui sont désordres. Il y a des gens qui font tout à contre-temps, tout est en désordre. Et ce sont des gens qui ne savent pas gérer, finalement. Et ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de liberté. Dès qu'ils ont fini quelque chose, il faut qu'ils le rattrapent d'un autre côté parce que ça n'a pas été fait. Chaque jour suffit sa peine, hein, Jésus nous le dit. Mais parfois, il faut savoir aussi s'offrir du temps. C'est un cadeau que nous nous faisons. On peut le donner aux autres. Mais commençons par le donner par soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme. Mais s'offrir du temps, vous allez voir que la Bible en parle très très souvent à travers un mot, c'est-à-dire prendre son temps. Si vous dites à votre employeur, écoutez, je prends mon temps aujourd'hui, vous risquez d'avoir les ennuis. Mais par-delà les nécessités, naturellement, hein, les obligations de la vie, il y a des choses où nous devons nous donner du temps. Et que nous ne devons pas nous culpabiliser. Il y a des gens qui se disent, ah, si je m'octroie un peu de respiration, ou un peu d'oxygène, ceci et cela, alors je ne dois pas être un bon chrétien, je ne dois pas être quelqu'un de bien, etc., etc. Eh bien moi je vous dis le contraire. Parce que si vous voulez réussir en qualité et en efficacité, eh bien prenez le temps de vous donner du bon temps. Sacrilège ? Non, je ne crois pas. Hein ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça n'incite pas à la paresse et de dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, maintenant, je ne fais plus rien, c'est terminé. Vous savez que notre général national, que vous connaissez, il est décédé maintenant, disait que gouverner, c'est prévoir. Hein ? Eh bien, vous êtes peut-être reconnu naturellement. Hein, c'est prévoir, c'est gouverner, vous le mettez dans le sens où vous voulez, et vouloir et choisir. Et il y a des choix qui sont nécessaires. Et un projet pour mieux vivre. Et dans la Bible, il y a un terme, une doctrine même, je dirais, qui s'appelle le repos de Dieu. Il y a le repos des hommes, et on sait comment ça se passe, le repos des hommes, puisque on a des millions et des millions de gens là qui sont partis en vacances ces dernières semaines, qui sont rentrés maintenant, bon, ils sont venus tout bronzés, ils sont contents, enfin bon voilà, peu importe, etc., etc. Mais nous entendons souvent les gens en revenant de vacances en disant « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis couché à 3h du matin » parce qu'il faut quand même en profiter, vous vous rendez compte, 24h c'est trop juste une journée, etc. Ils arrivent au travail, au bureau en disant « qu'est-ce que je suis fatigué ». Imaginez-vous un peu, c'est terrible une chose pareille. Hein. Alors on devrait supprimer les vacances. Je crois que les gens, le monde se porterait mieux. Enfin bon, pour l'instant, je ne suis pas encore pressenti pour être ministre du Travail. Ça risque pas. Mais toujours est-il que, voilà, c'est ça, hein. Prévoir, naturellement, le repos. Et je crois qu'il y a une cadence dans la création de Dieu. Il y a là tout un processus, et nous le trouvons déjà, même déjà dès le départ à la création, à travers le septième jour, à travers, pour les Juifs, le jubilé, etc., etc., tous les 7 ans, tous les 49 ans. C'est formidable, une chose comme ça. Bon, la vie sociale de nos démocraties, on fait à peu près la même chose. Hein. Les vacances, les jours de fériés, les jours de fête, les dimanches, ça veut dire dimanche maintenant, etc., etc., le repos. Mais qu'est-ce que nous faisons du repos ? Est-ce que c'est véritablement un repos qui est bon pour nous, pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit, pour que nous puissions véritablement, eh bien, goûter ce qu'est la vie, ce que Dieu nous a donné, et vivre dans le temps qui nous est imparti. Nous faisons l'apprentissage du temps aussi. Oui. Parce que cet apprentissage doit nous conduire au bonheur dans un premier temps et à la gloire. Oui. Parce que quand il est question du temps et de l'éternité, l'éternité c'est la gloire. Et ce sera un bonheur qui n'a rien à voir avec le mot que nous employons aussi dans notre langage, dans toutes nos langues terrestres, le mot bonheur, qui est souvent mélangé avec quelquefois des choses qui ne sont pas le bonheur. Apprendre par le temps, apprendre le temps, et de savoir occuper l'espace. L'espace, je voudrais vous en parler, le temps et l'espace. Imaginez-vous que notre vie soit un vase. Pourquoi pas, hein, un vase. Et c'est une histoire de trop-plein, vous savez. Quand vous remplissez une carafe et puis que vous ne faites pas attention, ça déborde à un moment donné. Et cette histoire, je le présente tout simplement. Vous avez un grand récipient, par exemple, chez vous. Et de préférence, il est en verre. Comme ça, vous pouvez voir au travers. Alors, vous allez vous poser la question, ma vie, c'est ce vase. C'est transparent. Il est grand. Voilà. On pourrait dire peut-être, je ne sais pas, moi, une amphore, ou enfin, vous portez le mot que vous voulez. Vous le remplissez d'abord de gros cailloux. Alors, automatiquement, ben, ça y est, ils vont prendre la place, mais jusqu'au bord, hein, comme ça. Ensuite, pour occuper l'espace qui est encore libre, vous allez y mettre des graviers, c'est déjà des cailloux moindres. Alors vous allez les voir descendre, vous allez entendre hein, cette petite musique hein, cristalline hein, sur le verre et sur les cailloux, et vous allez remplir aussi jusqu'au bord. Et puis ensuite, vous allez prendre le sable le plus fin qui soit, vous allez remplir encore, Et vous allez voir, tout ça, ça descend. Et pour que ça soit bien tassé, vous allez y mettre de l'eau. Et là, à ce moment-là, vous allez regarder, vous allez prendre le récipient, ce vase en verre, vous allez le tourner dans tous les sens, et vous verrez qu'il ne reste rien du tout. Parce que, d'abord les pierres, ensuite le gravier, ensuite le sable fin, ensuite l'eau qui va tasser, tout va aller naturellement jusqu'au fond. Et là, c'est à ras-bord. Ouais, il n'y a plus de place du tout. Et si vous voulez en rajouter, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Vous savez, ça ressemble un petit peu à nos vies. Hein. Les hommes, quelquefois, mettent des gros cailloux dans la vie. Et ensuite, ils y rajoutent des graviers. Le gravier, c'est une connotation un petit peu difficile. Hein. C'est rugueux, ça gratte. Après, vous y mettez le sable fin, parce que vous dites, voilà, il y a encore un peu de place. Et puis, ça ne fait pas de mal. Et vous savez que le sable, c'est quand même des gros cailloux qui ont été... au fil du temps, qui sont devenus véritablement, il y a de la poudre en quelque sorte. Vous y rajoutez de l'eau, ça tasse. Et puis là, bien, c'est à ras-bord, tout simplement. Et ce qui nous montre, hein, qu'est-ce que l'on peut mettre dans notre vie? Et tout au long d'une existence, qu'est-ce que l'on peut mettre dans notre vie? Voilà. Dans notre vase. Alors, il n'est peut-être pas transparent, mais enfin, en tous les cas, le Seigneur le sait. Et ça justifie la parole que Jésus nous laisse. Une des paroles les plus connues de l'Évangile, dans l'Évangile de Matthieu, si je vous dis Matthieu chapitre 11, quand il nous est dit verset 28, « Mais venez à moi, vous dont les vases sont remplis de cailloux, de gravier, de sable, et ensuite vous l'avez nourri avec une eau abondante, et que maintenant ça déborde de tous les côtés. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes accablés, vous tous qui êtes écrasés par mille et une choses, dans votre vie physique, dans votre vie morale, dans votre vie conjugale, dans votre vie familiale, dans tous les domaines, mais vous n'en pouvez plus. » Hein, Jésus nous dit ça. Alors venez à moi et vous trouverez du repos, vous trouverez du contentement, vous trouverez du soulagement. Et vous savez, une des choses qui nous sont proposées à travers notre démarche pour venir à Jésus, c'est de nous vider. Et peut-être les gros cailloux, ça représente un petit peu notre vie passée avec nos fautes, non avouées, gardées, conservées, caressées. Les graviers, c'est la même chose. Le sable fin qui ne laisse pas trop de traces, c'est pas trop difficile, mais qui font que toutes ces habitudes viennent nous remplir et nous remplir et nous remplir encore jusqu'à la fin. Et on est mouillé par des larmes, par des chagrins, par des peines, en disant « je ne peux plus ». Voilà, notre monde, il est obèse. Notre monde, il est chargé, il est écrasé, il n'en peut plus, il suffoque. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira « mais que la nature soupire ». Comme les douleurs de l'enfantement, parce que ça y est, ça explose. Vous savez, quand on voit l'état du monde aujourd'hui, le monde moral, le monde politique, le monde économique, on se dit, mais où va-t-on? Remarquez, on n'est pas les seuls à se poser la question, parce que de siècle en siècle, ça a toujours été comme ça. Il y a un temps pour toute chose. Hein. Un temps pour se faire la guerre, il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour aimer, puis il y a un temps pour haïr. Voilà, c'est cyclique tout ça. Et pendant ce temps-là, le monde est en train de mourir sur pied. Il ne peut même plus bouger. Il ne peut même plus prendre des décisions, il n'est même plus capable, finalement, et bien d'envisager des choses en bien, dans ce qui est bon, mais d'une manière efficace. C'est trop lourd. Alors, c'est quelque chose, mais il faut le dire. Je vais terminer avec une dernière pensée, qui peut être aussi appropriée à notre réflexion. C'est dans le livre aux Éphésiens, c'est Paul qui nous écrit ça. Chapitre 5, versets 15 à 17, il nous est dit cette parole, et c'est intéressant de le prendre en considération parce que ça nous montre un petit peu ce que ça vient étayer ce que nous disons il y a quelques instants. Et au chapitre 5 et verset 15, il est dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Qu'est-ce que c'est que la circonspection? Avec mesure, avec réflexion, en considérant les choses, en en tirant le meilleur parti et en rejetant ce qui est mauvais. La circonspection, c'est de la sagesse. Non comme des insensés, mais comme des sages. Seigneur, donne-moi la sagesse que je n'ai pas. Donne-moi ta grâce pour comprendre ce que je n'ai jamais compris ou peut-être voulu comprendre, et qui fait que je suis malheureux. Écoutez, il dit au verset 16, cette parole en trois mots. Hein. cette expression, racheter le temps. Donc on peut le racheter. On ne le rachète pas avec de l'argent, avec de l'or. On ne peut pas le racheter comme on pourrait peut-être aller chez un marchand de temps. Comprenez ? Oui. En disant, je voudrais racheter ma vie. Je voudrais racheter mes erreurs. Je voudrais racheter eh bien, toutes les fautes que j'ai commises, le temps que j'ai perdu. On va comprendre. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Cela nous ramène à Dieu. Ouais. Avant, je ne savais pas. Avant, j'étais dans l'ignorance. Avant, toutes ces choses ne me disaient rien. Au contraire, ça m'embarrassait, voire ça m'horripilait. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que, moi, dans ma petitesse d'homme, sur cette terre, moi, l'être qui est fini entre un commencement et une fin, je me suis aperçu que, eh bien, la vie, ce n'était pas ça. On n'était pas comme des animaux ou des bêtes. On était des hommes. Et parce que nous sommes des hommes, parce que je suis un homme, eh bien Dieu m'a donné une intelligence, il m'a donné une capacité, il m'a donné un cœur. Et je me suis mis à penser, je vais faire comme Salomon, vous savez, et je me suis mis à penser aux choses, à la vie, au temps, au devenir, à l'histoire, et ceci et cela. Et je me suis retrouvé face à toutes ces grandes questions existentielles et Dieu dans tout cela. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et pour la plupart d'entre nous, nous nous sommes tournés vers le Seigneur, donc c'est lui qui s'est tourné vers nous et qui nous a dit, écoute, arrête de te débattre dans ta misère, dans ta pauvreté, dans ta médiocrité. Moi, j'ai quelque chose à te dire parce que je t'appelle, parce que j'ai quelque chose pour toi. Racheter le temps. C'est Dieu qui va nous aider. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé le prix pour nous refaire, pour nous transformer, pour nous ramener à une nature normale. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Arrêtez-vous, vous qui courez après le temps pour essayer d'en vouloir plus. On n'ajoutera pas une coudée à la durée de notre vie avec nos inquiétudes. Ce n'est pas la peine de courir. Ça ne sert à rien. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Cette parole que Paul nous laisse, c'est tout simplement la sagesse. J'ai parlé de sagesse ce soir. Sagesse dans l'utilisation des jours de notre vie. Qu'est-ce que je fais des jours de ma vie? Tout simplement. Il s'agit du temps général, en passant par les différentes étapes de la vie des hommes, l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, l'âge milieu et puis la vieillesse naturellement. Faites tout simplement de questions, de cette question du bon emploi que nous pouvons faire, c'est-à-dire les occasions opportunes à saisir pour agir et de pratiquer le bien. C'est ça? Moi, je suis heureux de voir des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, qui à un moment ou un autre entendent l'appel de Dieu, et Dieu se fait entendre. Hein, moi, j'en suis convaincu, en tant que pasteur, on le sait. Et que certains passent en disant, « Seigneur, je suis trop jeune, je suis trop occupé, jusqu'au moment où Dieu nous dira, mais c'est trop tard. Les trop, ça fait comme mon histoire de Haz, qui est trop remplie, vous comprenez, à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Par contre, je sais qu'il y a encore aussi des hommes qui saisissent l'opportunité du temps, les occasions où ils sont appelés à ce moment-là, peut-être, avec un temps de réflexion, avec un temps de préparation, et qui vont découvrir le Seigneur, qui vont découvrir Dieu, qui vont se convertir, qui vont demander pardon à Dieu, et qui vont vivre une nouvelle vie, une nouvelle naissance. C'est ça ce qui est important. Racheter le temps, c'est le processus, vous le savez. Nous trouverons toujours un puissant mobile de remplir notre temps, et nous trouverons toujours un mauvais mobile de dire non, bien que les jours soient mauvais. C'est ça le problème. Tout le monde se plaint du temps, tout le monde se plaint de la politique, tout le monde se plaint de ce qui se passe dans le monde, mais personne ne fait rien. Parce que ce n'est pas une affaire collective, c'est une affaire personnelle. C'est quelque chose d'individuel. Tous les jours, est-ce que nous sommes convaincus ou non en entendant les informations, ça va mal? Mais ça a toujours été mal. Donc, comme on sait que ça va mal depuis toujours, on se dit, ben, c'est pas plus terrible que la semaine dernière. Et personne ne fait rien. C'est ça la question. Et notre réaction ne doit pas être une réaction de peur. Hein. On ne se convertit pas par la peur, on se convertit par le cœur, avec une véritable conviction. Il y a Paul aussi qui nous rappelle que dans 2 Timothée, il nous dit aussi quelque chose qui est susceptible de faire réfléchir. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, il est dit ceci, puisque les jours sont mauvais. Paul écrira à Timothée, lui dira, mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors on peut le dire, Paul le disait déjà dans son temps, qu'est-ce que ça doit être pour nous aujourd'hui? Car les hommes seront égoïstes, première chose. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traite emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la foi, mais reniant ce qui en fait la force. Donc le monde ne mange, ne bouge pas. Les jours sont mauvais, mais rien ne change. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour entendre l'appel de Dieu. Il y a un temps pour lui répondre. C'est ça justement l'objet de notre rendez-vous ce soir. C'est de répondre à l'appel. Et on ne peut pas être confronté avec l'évangile, avec le message de Jésus-Christ, sans entendre son appel. Puisque tout le message de Jésus, c'est un appel. C'est pas autre chose. L'expression « racheter le temps » peut signifier, voilà un petit peu plus loin avant de terminer, en quelque sorte, ça veut dire s'arracher de ses chaînes comme un prisonnier. Vous rendez compte l'effort que ça suppose? Vous savez que les prisonniers qui sont... Enfin, dans le temps, on les mettait au fer, on les enchaînait, naturellement. Je peux vous dire qu'ils avaient le temps de méditer pour savoir comment ils pouvaient se défaire de tout ça. Hein. Alors d'abord, il fallait faire tomber les chaînes et ensuite, il fallait faire tomber les barreaux. Mais il y en a qui sont arrivés. Hein. Quand on est comme ça, parce que la volonté d'un prisonnier, c'est de s'évader, c'est de recouvrer la liberté, c'est de vivre pleinement et non pas dans un endroit impossible. C'est ça ce que ça veut dire, tout simplement. Or, par comparaison, la vie chrétienne a son prix pour nous amener à comprendre qu'à chaque instant de notre existence, de notre vie, quelle est la volonté du Seigneur, parce que c'est la vraie sagesse. Et il y a un temps pour tout. Un temps pour, nous l'avons dit, différentes choses. Il y a à peu près 16 à 18 antithèses qui nous sont présentées, vous pourrez les relire. Il y a un temps pour se préparer à rencontrer Dieu, après l'avoir entendu. Il y a un temps pour se mettre en condition, parce que dans Romains, il nous est simplement rappelé cette parole de mise, de préparation, chapitre 13, et au verset 11 à 14, il est dit ceci, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Jésus revient bientôt. Alors dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voilà. Nous sommes beaucoup plus proches aujourd'hui dans notre 21e siècle que ceux qui ont vécu et qui ont écrit ce message. C'est passé du temps, mais ça devrait interpeller le monde. Or, le monde n'a jamais été si peu préparé au retour de Jésus-Christ et à l'avènement de Christ. Et même l'Église tomber dans une sorte de léthargie, de somnolence, de sommeil. Dans le psaume 90, il est dit ceci, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Ouais. Enseigne-nous, c'est une prière que nous pouvons faire au Seigneur tous les jours, naturellement. Prière de Moïse, pour ne pas perdre de vue la courte mesure de la vie humaine, ça va vite. Si nous posons la question à un adolescent, il va vous dire, « Oh là là !» On a la vie devant nous, hein. C'est infini. Et quand on arrive au bout de la... On se dit, qu'est-ce que ça passait vite, hein, naturellement. Eh oui. La vie, c'est une marche rapide. Elle a son but, c'est celui de Dieu. Elle a sa valeur que nous ne pourrons pas négliger. Et en conclusion, je dirais tout simplement avec le psaume 39, hein, parce que je crois que c'est une bonne pensée que nous pouvons tirer au verset 5 à 6, il est dit... C'est une prière. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Alors, je ne sais pas si vous priez, vous voulez savoir quand c'est ce que vous allez mourir. Moi, je ne demande pas pour moi, en tous les cas, mais c'est David qui le disait. Hein. Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. La traduction de fragile, Combien je suis peu de choses ou combien mon existence est courte dans les annotations qui nous sont données dans la Bible. Oui. Combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Alors, quelle leçon nous avons dans tout ça? Naturellement, c'est à nous de réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire? En sachant qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et il nous est simplement rappelé au verset 11, « Il a fait toutes choses belles et je veux que l'instant que nous vivons, que ce moment qui est le mien, que nous partageons ce soir, ceux qui viendront demain, ce que j'ai vécu hier, eh bien moi, pour moi, je vais considérer que c'était le temps de Dieu, pour moi, spécialement pour ma vie, et je pourrais dire, et je peux dire en ce qui concerne le passé récent, merci Seigneur, ça nous engage à la louange et à la reconnaissance, et de dire mais merci pour hier, merci pour les belles choses que j'ai pu voir, mais si nous l'oublions ça, alors à ce moment-là, la reconnaissance partira de notre cœur, et puis nous verrons que les choses qui ne sont pas forcément très, très positives. Et si nous savons remercier le Seigneur pour les choses belles qu'il nous a données, eh bien aujourd'hui je recommencerai, et demain je vais déjà me réjouir de ce qu'il me prépare. Quel que soit le contenu de mon lendemain, je ne le sais pas. Alors, il a fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Eh oui. C'est ça ce qui fait que nous sommes des êtres supérieurs. Que nous sommes des créatures supérieures. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, l'image morale de Dieu. Et ce Dieu qui est avant tout un Dieu d'amour, veut et entend bien à ce que nous partagions sa gloire dans cette éternité dont il nous a donné le sentiment et le prémisse au fond de notre cœur que nous ne sommes pas faits pour mourir et nous ne sommes faits pour vivre éternellement. Alors, le temps, vivre ou survivre. Moi, pour moi, j'ai choisi. Moi, le temps de Dieu, c'est ce qui me permet de vivre. Et pour l'éternité, avec cette espérance éternelle. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous pousses à la réflexion. Et nous voyons que chaque créature, chaque homme, quel qu'il soit là où il se trouve, quelles que soient ses conditions d'existence, eh bien, tu lui as mis, Seigneur, au fond de son cœur, une pensée. Cette pensée qui, quelquefois, est enfouie, empoussiérée. Cette pensée qui est souvent, Seigneur, encombrée. Mais néanmoins, c'est quand même la pensée d'éternité venant de Dieu. Alors, Seigneur, tu veux nous amener, Seigneur, à bien comprendre qu'il y a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan, il n'est pas pour demain. Ce plan, il est pour aujourd'hui. Ce plan, je dois véritablement rentrer dans celui-ci, mais à l'instant, Seigneur. Oui, tu ne veux pas que nous différions les choses avec nos raisonnements, avec nos analyses, avec en regardant en arrière, en effet, Seigneur, en ayant peur de l'avenir. C'est maintenant, le temps présent, c'est le temps de Dieu. Et nous croyons que ce temps de Dieu, il est beau, il est bon, et il est véritablement fait pour chacun, pour chacune. Alors merci Seigneur, tu nous interpelles ce soir et je te demande de bénir tous les auditeurs de cette parole de telle manière que véritablement chacun qui entend, qui comprend, qui réalise, eh bien puisse se tourner vers toi et accepter Jésus comme son sauveur personnel parce que Jésus est la vie et tu nous as dit « Mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Alors merci Seigneur, merci pour ton éternel présent, ta permanence et puis les belles choses que tu nous donnes à l'instant même où nous vivons. Merci notre Dieu. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.